Croatia. Kaboom! Showtime in Bulgaria.
And Baranger finishing with the two-fisted flush, rescuing the potentially broken play.
Able to work his way through with a block shot by Baranger. And then the tackle.
What a follow. Terrific work on the offensive boards by Johan Baranger.
Oh, that's a tough move. That is a heck of a move by Johan Baranger.
Oh, and that is the difference that Baranger makes. No thank you. No, the follow-up though from Baranger. Hello.
À mes côtés, toujours avec moi, le chef de la cellule basket de RMC, Félix Gabory, et puis Thomas Breton du Média Envergure, qui nous fait le plaisir d'être en studio en plus aujourd'hui. Bonjour messieurs, ça va, tout va bien?
Salut Kylian, salut Thomas, salut tout le monde.
Salut tout le monde, ravi d'être là aujourd'hui en studio, comme tu l'as dit, donc un grand plaisir pour moi.
Excellent, on continue nos petits podcasts sur les prospects français qui se présentent à la prochaine Draft NBA. Si vous avez écouté évidemment les précédents épisodes de ces portraits sur Nolan Traoré, Maxime Reynaud ou encore Noah Penda, vous vous attendez sans doute à ce qu'on commence par vous présenter le profil de Johan Baranger, mais vu la trajectoire atypique, voire inédite du garçon, je me permets une petite folie. On va commencer par son parcours.
RMC Basket Time, le parcours du prospect.
Félix, c'est à toi.
Ouais, le mot comète est beaucoup trop faible hein, pour définir sa trajectoire. Tu l'as dit, il a commencé le basket en septembre 2021, soit il n'y a même pas 4 ans, du côté du petit club de Saint-Joseph, Strasbourg. Avant, il faisait du foot, mais il a arrêté car il avait de trop grands pieds. Et il n'avait donc plus sa taille de crampon. Donc vu sa taille, tout le monde lui a dit de se mettre au basket. Et c'est un de ses potes qui lui apprend toutes les bases. Baranger n'avait tellement rien qu'il a même dû apprendre le double pas. En U17, il commence avec l'équipe départementale de Saint-Joseph-Strasbourg. Puis la SIG Strasbourg, le grand club de la région, le repère. À la SIG, il évolue pendant 2 saisons au centre de formation. D'abord en U18, puis en espoir, avant de quitter l'Alsace pour la Slovénie. C'est un choix plutôt étonnant. Strasbourg lui proposait pourtant d'intégrer son équipe pro en bout de banc, mais il choisit finalement Ljubljana. Mais alors pourquoi Ljubljana? Car c'est un club qu'il a découvert lors d'un entraînement pendant un passage pour un traitement dans une clinique quelques mois plus tôt. À la base, à Ljubljana, il devait jouer avec les jeunes en équipe réserve, sauf qu'il a tapé dans l'œil d'un certain Zvezdan Mitrovic, l'ancien coach de Monaco et de l'ASVEL notamment. Il intègre la rotation de l'équipe première en tant que deuxième pivot et joue cette saison en moyenne plus de 18 minutes par match en Ligue Adriatique et en Eurocup, donc la C2. Et tout ça dans une équipe performante, puisque Ljubljana a terminé 6e de son championnat et a été jusqu'en quart de finale d'Eurocup. Pas mal pour un mec qui a commencé le basket il y a 4 ans. Quoi.
Ouais, on va revenir un petit peu à ses débuts un peu extraordinaires. Faudrait faire une plaque, un honneur à celui qui lui a conseillé de faire du basket, non Thomas?
Ouais, forcément, je pense que c'est un bon choix, surtout avec l'avènement de la VAR. Je pense que faire du 51, c'est pas très bon dans le foot. Donc c'est vraiment très intéressant pour lui. On entrevoit une courbe de progression qu'on est qu'à ses débuts. Donc on peut lui excuser certaines lacunes et être encore plus impressionné par ses qualités et l'impact qu'il a au fil des matchs, notamment en play-off, comme on l'a dit dernièrement. Donc c'est vraiment très très impressionnant ce qu'il est capable de produire à un aussi jeune âge.
Et puis jamais aucun Français n'avait été drafté aussi peu de temps après avoir commencé le basket, c'est quand même dingue. La seule comparaison possible, c'est Yann Manaimi qui est passé du foot aux Spurs en seulement 5 ans, une trajectoire hors du commun. Comme ça, forcément, ça tape à l'œil des scouts NBA, Félix.
C'est complètement dingue et surtout, ça excite pas mal les scouts NBA parce que quand tu vois ce qu'il a réussi à faire en moins de 4 ans, tu te dis que sa trajectoire peut être folle et que sa marge de progression, elle est complètement dingue. Et ça, pour des scouts, pour des recruteurs NBA, c'est juste du pain béni, quoi.
Thomas?
Ouais, forcément, on voit également l'envie de progresser le plus vite possible. On voit qu'il a des prédispositions importantes pour le sport, 2m10, une mobilité assez folle pour sa taille. On voit son passé de footballeur également. Il a une vraie habilité à courir sur le terrain. On sait que avoir plusieurs sports et faire plusieurs sports dans sa vie, c'est vraiment très intéressant. On peut penser à la danse pour le footwork, beaucoup de gens qui font de la natation, de l'athlétisme. Et lui, avec le foot, il arrive vraiment à montrer beaucoup de choses sur le terrain. Ça l'aide, on voit au quotidien, on voit une vraie rigueur dans son travail pour arriver aussi vite, aussi tôt.
Oui, parce que malgré ce retard et cette découverte tardive du basket, ça prouve quand même l'envie de progresser, l'envie de réussir et d'atteindre des rêves dont il n'était même pas conscient il y a 2 ans encore, Félix.
Oui, c'est un énorme bosseur et c'est ce qui ressort à chaque fois quand les gens qui l'entourent et qui l'ont côtoyé là, sur ces 4 dernières années disent de lui. Et c'est complètement dingue parce que même en termes de, pour prendre toutes les bases, donc déjà il y a ça, je l'ai dit un petit peu dans sa présentation, il y a à peine 4 ans il ne savait même pas faire un double pas, Là maintenant, il se présente en NBA, il a joué en Eurocup, etc. Mais surtout, il a aussi à se mettre, quand tu regardes un peu des vidéos, dans toutes les bases des systèmes, etc., dans toutes les coupes. Enfin, tu vois que c'est un mec qui comprend le jeu, en fait. Donc, il avait sûrement ça naturellement, la compréhension du jeu, mais c'est absolument pas gagné. Parce que c'est un phénomène athlétique, donc ça, c'est bien. Mais après, il faut aussi comprendre le basket. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il l'a déjà, quoi.
Il l'a déjà.
Ouais, il l'a déjà, il est capable de... Elle a joué sur le terrain, 18 minutes par match dans une équipe, comme on l'a dit, performante, qui a joué en Eurocup, il a déjà joué plus de 50 matchs cette année, il a pu produire chaque entrée, il a montré un vrai impact sur le terrain, notamment avec ses qualités au rebond, en défense, on va en reparler, donc c'est vraiment très très impressionnant d'être juste capable de rester sur le terrain après seulement 4 ans de basket à un tel niveau.
Vous parlez de cette équipe, le CD Vita Olimpia de Ljubljana. Il a fait ce choix de rejoindre une équipe slovène dans un championnat qu'on connaît peut-être très peu, alors qu'il pouvait signer à la SIG Strasbourg. Est-ce que vous comprenez ce choix et comment est-ce qu'on peut l'expliquer au-delà du fait d'un coup de cœur pendant un workout estival, Thomas ou Félix?
Je pense que déjà, la première raison, c'est un vrai coup de cœur. Je pense qu'en fait, il s'est senti bien là-bas, il a adhéré complètement au projet. Il a eu un peu de chance entre guillemets, parce que d'intégrer l'équipe première, c'est pas ce qui était prévu, mais avec ses qualités, il a tapé dans l'œil du coup de Mitrovic, qui est pas n'importe qui, on pourra y revenir. Mais non, je pense que on lui a proposé un projet là-bas, et lui, en fait, il l'a dit dans des interviews qu'il adore aussi se lancer des défis. Il s'est dit, moi, je veux continuer à me développer, à travailler. Il a eu une trajectoire déjà tellement folle, il a brûlé tellement d'étapes qu'il s'est dit, pour moi, limite, dans sa tête, je suis pas dans sa tête, hein, mais il s'est dit, Strasbourg, c'est trop, il y a pas assez de
trop
évident et pas assez d'enjeux, pas assez
de challenge,
voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense que c'est ça dans sa tête ce qui s'est un peu passé.
Il a voulu se challenger ?
Ouais, je pense qu'il a voulu se challenger dans une ligue vraiment intéressante, la ligue qui sort des prospects tous les ans, notamment avec l'équipe du Megamis, on a pu le voir avec Nikola Topić l'an dernier, Jovic, Filip Jovic et Jovic Duit également. On a Nikola Jokic également, il y a une bonne dizaine d'années qui est sorti de là. C'est une ligue intéressante d'ex-Yougoslavie avec des gros mastodontes comme l'Étoile Rouge ou encore le Partizan. Ça lui a permis de jouer beaucoup de matchs à bon niveau avec l'Eurocup. Donc non, je pense que c'est un choix très positif. Je pense que l'avenir lui parle pour lui.
Puis tu l'as dit, Félix, il a tapé dans l'œil quand même de Zvezdan Mitrovic, qui n'est pas quand même le plan-plan du coin en U15 en région parisienne. Hein. Zvezdan Mitrovic, il a entraîné de très grands clubs en Euroleague. Quand même, taper dans l'œil de Zvezdan Mitrovic, ça place quand même un prospect, non ?
Ça veut dire que c'est un mec qui est déjà un énorme bosseur, qui doit avoir une éthique de travail impeccable, et on n'en doute pas quand on voit ce qu'il a réussi à faire en moins de 4 ans. Et donc, c'est tout bénef. Et je pense que ça peut aussi rassurer sur sa capacité à s'adapter en NBA, parce qu'en fait, quand tu as quelqu'un d'aussi exigeant que Mitrovic en tant que premier coach pour débuter ta carrière professionnelle, ça te pose les bases un peu pour la suite. Donc je pense que ça dit que du bien de lui.
Ouais, c'est ça, parce que c'est un entraîneur qu'on a vu quand même assez sanguin, assez exigeant envers ses joueurs quand il est passé en France notamment. Thomas, être sous les ordres de Zvezdan Mitrovic à cet âge-là, quand même, ça doit forger un jeune quand même.
Ouais, je pense que c'est assez incroyable pour lui. Être pris sous les ailes d'un coach avec un tel pedigree en Europe, je pense que c'est forcément bon signe et ça veut dire beaucoup de choses pour lui.
Malgré ça, on peut parler de manque d'expérience, c'est certain, mais étant donné qu'il a commencé le basket un peu sur le tard, est-ce qu'on se dit pas que c'est un peu tôt pour lui de faire ce grand pas de l'autre côté de l'Atlantique ?
Non, parce qu'il a déjà des qualités très précises et très identifiées qui sont la défense et la mobilité et la polyvalence athlétique. Ça, c'est très important pour, on en parle souvent quand on parle de prospects, c'est très important pour tout de suite trouver un rôle et une place en NBA. Lui, la défense, c'est son principal point fort, c'est son côté, la protection du cercle, le contre, la défense, le rebond, la mobilité. Quand tu regardes des vidéos de lui, tu vois que c'est vraiment ce qu'on appelle un rim runner. C'est un mec qui, de panier à panier, est extrêmement véloce, extrêmement mobile. Et donc ça va lui permettre, il a des points faibles, on pourra y revenir, mais ce côté défensif et athlétique, tout de suite peut lui permettre en NBA d'avoir sa place.
Donc le fait que tout se bouscule en 4 ans, pour vous, c'est pas un frein à passer de l'autre côté de l'Atlantique?
Je pense qu'il a l'air d'avoir une cote intéressante. Si on se fie aux grands médias, notamment ESPN, il est 15e dans le big board d'ESPN, 3e pivot, seulement derrière Kamal Malouach de Duke et Derrick Quinn. Donc je pense que s'il peut avoir une cote au premier tour, je pense que c'est très intéressant pour lui de tenter sa chance outre-Atlantique assez vite.
On a bien compris, le garçon n'est pas commun, pas du tout même. Il va passer sans doute du foot à la NBA en 4 ans seulement, mais à quoi ressemble son jeu? T'as commencé à en parler, Félix, on développe ça tout de suite.
RMC Basket Time, le profil du prospect.
Félix, petite carte d'identité de notre ami Johan Béringer.
Alors, il est né en 2006, il a fêté ses 18 ans en novembre dernier, ce qui fait, selon les données d'ESPN, le troisième plus jeune joueur de cette cuvée de draft, après le français Noah Esengue, qu'on pourra aussi découvrir dans cette série de podcasts, et aussi le phénomène Cooper Flagg. Donc voilà, c'est quand même pas mal, le troisième plus jeune joueur de cette cuvée. Pour le profil, on est sur un pur pivot, avant tout avec des qualités défensives, on l'a dit. Au niveau des mensurations, il fait un peu moins de 2m10 aux dernières nouvelles et un peu plus de 100 kilos. Et voilà, surtout, c'est un phénomène athlétique avec une envergure très importante. Mais ça, on va y revenir.
Juste avant de parler de son jeu, justement, il a quand même des prédispositions génétiques, physiques impressionnantes, Thomas.
Forcément, le physique est assez impressionnant et taillé pour la NBA. Il est très grand, mais il est surtout très mobile, une vraie légèreté d'appui, mais également une capacité à tourner ses hanches pour défendre dans les grands espaces de la NBA avec le spacing, notamment avec beaucoup de tirs à trois points. Donc, c'est vraiment sa principale qualité et vraiment on le remarque énormément à chaque entrée. Il a vraiment un gros jump, une grosse légèreté d'appui pour aller monter très haut, pour monter au contre ou au finish et cacher des lobes.
Il a tout d'un joueur NBA. Physiquement.
Oui. Physiquement, clairement, c'est un mec son corps est prêt. On peut peut-être, au niveau de la taille, bon, c'est pas un mec super grand, il a que 18 ans, enfin, il vient de les fêter il y a quelques mois, donc il peut peut-être encore,
oui,
peut-être encore un peu grandir. Mais oui, athlétiquement, c'est une folie. Et on sait très bien que quand les mecs arrivent en NBA, ils vont encore se développer encore plus. Et non, ça va être. Et c'est ça qui va exciter vraiment les franchises NBA, c'est le potentiel athlétique complètement dingue. Il est, comme on dit souvent, NBA ready. Ça, pour le coup. Peut-être on peut rajouter un petit peu plus de muscles sur la carcasse, mais ça, c'est
ouais,
toujours pareil, ça vient
tout
seul.
Ouais, ouais. Bien sûr. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, Félix. C'est quoi son style de jeu, selon vous, Thomas?
C'est vraiment du rim running pour le moment. C'est un joueur qui n'a pas vraiment de grande qualité offensive, à part dunker. C'est le seul endroit où il peut être efficace sur les rebonds ou sur de la finition près du cercle. Et c'est surtout défensivement où il va apporter toute son énergie et toute sa capacité à défendre dans les espaces, différents types de couvertures sur pick and roll. Et offensivement, il va poser les écrans, il va roll, il va aller finir près du cercle pour apporter des points faciles pour son équipe.
J'ai lu pas mal d'interviews de sa part qui sont parues un petit peu partout à l'approche de la draft. Il paraît quand même assez lucide sur peut-être son manque d'expérience, sur ce qu'il lui reste à améliorer et surtout sur ses points forts. Ça revient souvent, l'énergie, la défense, la verticalité, sa rapidité pour sa taille. Il faut vraiment qu'il mise tout là-dessus ou alors il faut qu'il essaye, je ne sais pas comment expliquer, mais de s'éloigner de ça pour progresser ailleurs. Ou est-ce que ça peut suffire à lui faire rentrer comme il le faut dans la NBA l'année prochaine?
Non, parce que ça, c'est vraiment son billet d'entrée pour la NBA. C'est vraiment ce qui va lui permettre de tout de suite pouvoir se faire sa place dans une rotation. Le reste pourra venir plus tard. Mais en fait, on est sur un très jeune joueur, on l'a dit, troisième plus jeune joueur de la QV. Un mec qui, encore une fois, a commencé le basket. On le répète parce
que
c'est vraiment une folie. Il y a même moins de 4 ans, tu vois. Sa première licence, c'est septembre 2021. Ouais. Donc là, quand il commencera la saison prochaine en NBA, ça fera tout juste 4 ans. Et donc, faut y aller étape par étape. Mais voilà, toutes les qualités qu'on vient d'énoncer, c'est vraiment son billet d'entrée. Après, oui, évidemment, il va falloir qu'il progresse sur sa diversité offensive. Déjà, c'est une évidence. Il va pas, s'il veut durer dans NBA, avoir un rôle plus important, il peut pas se contenter d'être seulement un mec qui peut prendre les miettes près du panier ou alors marquer sur pick and roll. Et au niveau du shoot aussi, il va falloir aussi pouvoir développer au moins un shoot extérieur. On le sait, dans la NBA actuelle, il va avoir besoin de ça.
Il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'espère tirer plus souvent au panier à l'avenir. Je travaille aussi la lecture du jeu, mon dribble en phase offensive et être une menace n'importe où sur le terrain, que ce soit à 3 points dans la raquette ou un peu en dehors. » En fait, on a l'impression qu'il a il a un niveau de progression exceptionnel encore.
Ouais, je pense que le champ des possibles est assez large. C'est assez dur de vraiment mettre des limites à sa progression. On est au tout début de sa carrière, donc il cache encore potentiellement beaucoup de choses. Pour le moment, je pense que le point le plus important, c'est de se concentrer sur ses qualités. J'aimerais bien qu'il améliore notamment son footwork offensif, réussir à mieux catcher les ballons et finir auprès des défenseurs. Il a souvent un peu cette mauvaise habitude de foncer dans le tas. Également son passing, essayer de mieux ralentir, mieux lire les actions pour essayer de ressortir la balle. On a pu voir certaines compétitions et autres contextes où il était plus habile là-dedans, notamment à la NGT l'année dernière ou en FIBA U18 l'été dernier. Donc je pense que sa capacité à passer le ballon pour faire des lectures sur short roll et lui faciliter également l'accès au cercle et diversifier son apport offensif. Je pense que le shoot, on est encore un peu plus loin, il a encore du mal à être vraiment au-dessus des 50% lancé franc, donc c'est un très très long travail.
Au-delà du tir et du footwork qui sont quelque chose de très précis et qu'on apprend vraiment comme il le faut, au-delà de ça, il y a tout ce QI basket qu'il a aussi peut-être à apprendre aussi, et ça fait que 3 ans et quelques qu'il fait du basket. Donc au-delà de tout ce qui est très précis, les footwork et tout, il a cette mentalité aussi à apprendre encore.
Moi, je ne suis pas inquiet pour lui par rapport à tout ça, parce qu'en fait, on le voit, il avait des minutes sous Zvezdan Mitrovic, encore une fois. Je crois que c'est moyenne, on est sur du 17 ou du 18 minutes de moyenne cette saison en championnat et Eurocup. Donc en fait, c'est pas un boulet sur un terrain, si on peut le dire de manière directe. Parce qu'un mec comme Mitrovic, encore une fois, ne va pas s'embarrasser d'un gars qui est un boulet dans les systèmes. Donc non, moi, et en plus, tu le dis dans toutes ses déclarations, le mec est quand même vachement lucide sur ses points forts et surtout sur ses points d'amélioration. Il est complètement conscient de ses limites, de tout ce qu'il doit encore apprendre. Il est tout à fait dans la bonne mentalité. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet pour lui. Je pense que sa trajectoire, elle va continuer comme ça et ça va y aller tout doucement et impeccablement, quoi.
On a pas mal parlé de ses capacités offensives et de ses manquements de ce côté-là du terrain. Mais défensivement, on est quand même sur un joueur assez fiable défensivement.
Ouais, il a montré des grandes qualités. Gros protecteur de cercle, c'était le meilleur protecteur de cercle cette année du côté de la Ba League avec 8,5% de taux de bloc. Mais il a encore également des choses à améliorer. On l'a dit, un manque d'expérience. Je trouve personnellement sur ce côté-là du terrain qu'il manque encore un peu par manque de discipline défensive. Il met un peu trop ses mains sur le ball handler quand il va montrer au cercle. Ça fait un peu trop de fautes. Et il est à 2,3 fautes de mémoire par 20 minutes de temps de jeu. Donc c'est un peu trop pour rester sur de longues durées sur le terrain. Et également quelques petites rotations à revoir. Mais ça, c'est vraiment dur de le critiquer là-dessus. C'est encore le tout début. Donc il faut qu'il continue de progresser là-dessus. C'est encore déjà plutôt pas très mal, comme on l'a dit, pour jouer sous Zvezdan Mitrovic. Mais encore des vrais progrès à faire. Prendre également du muscle pour mieux résister au contact NBA avec les gros pivots qu'il va devoir affronter. Mais ouais, des petits progrès à faire en défense. Mais la base est vraiment très très intéressante.
Après, il peut contrebalancer ce mini déficit de taille et de poids par cette mobilité, cette rapidité.
Oui, ouais, et par sa hargne et par
son envie.
Son envie, ouais. Quand tu le vois sur le terrain, c'est vraiment un mec, un energizer, un besogneux. Et non, mais surtout, il est extrêmement mobile, il est très tonique, il est très... Donc, pour la taille, on n'est pas inquiet. Alors oui, évidemment, si on commence à se dire que à se projeter sur des 1 contre 1 contre Nikola Jokic, bon, peut-être qu'il va un peu galérer, même on a parlé du poids, de la masse musculaire, mais sur énormément de pivots et même de poste 4, parce qu'il est quand même très mobile, il va pouvoir être un défenseur très solide.
Avec tout ce qu'on a dit là en termes de profil, d'intelligence de jeu, de taille, de tout ce que vous voulez, à qui est-ce que vous pourriez le comparer en NBA ? Lui, il a affirmé « J'ai un style similaire à Derek Lively, l'intérieur de Dallas, qui apporte à la fois du rythme et de la verticalité. » Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse de lui-même ? Et à qui est-ce que vous pourriez le comparer d'autre ?
Moi, il m'a bien embêté avec cette comparaison.
Avec Lively,
parce qu'en fait, c'est exactement ça. En fait, du coup, il m'a piqué ma comparaison, mais bon, du coup, je lui laisse parce qu'il a quand même la primeur. voilà, c'est le principal intérêt.
C'est lui.
Donc
ouais.
Voilà, c'est lui. Mais c'est exactement ça. Pour le coup, c'est Derek Lively. Vraiment, là, pour les gens qui nous écoutent, il faut vraiment vous imaginer Derek Lively, le prendre en français de 18 ans, c'est ça. Du coup, j'ai quand même fait l'effort de trouver d'autres mecs. Moi, il me fait aussi beaucoup penser à des mecs comme Jarrett Allen ou comme Wendell Carter Jr. Mais on est dans cette même veine de pivot-là comme Derek Lively, de poste 5, mobile, très, très bon défensivement avant tout. Donc voilà, il me fait penser à ces mecs-là. Surtout, s'il peut atteindre le plafond de Jarrett Allen, on signe tout de suite. Hein.
Oui, c'est sûr qu'on signe. Derek Lively, on est d'accord ?
Moi je trouve Derek Lively un peu plus grand et un peu plus skills offensivement, notamment au lycée. On sait qu'il tire un peu plus de passing. Personnellement, j'ai plus Isaiah Jackson des Pacers, qui était également un très gros prospect quand il sortait du UNC. Il a eu un peu de mal à s'adapter en NBA, mais il avait un vrai bon rôle en sortie de banc des Pacers. Cette année il s'est blessé, il a pas trop joué, mais en tant qu'energizer de sortie de banc, très mobile, très bon protecteur de cercle, capacité à attaquer les espaces grâce à sa forte mobilité, sa légèreté d'appui. Donc je trouve que c'est une comparaison qui fait plutôt sens, ouais.
Chez Envergure, Thomas, vous le voyez être sélectionné en quelle position, est-ce qu'on peut définir une position précise, un top 10 ?
Toujours des divergents. Je sais que mon collègue Manu est assez chaud sur lui, là, en bord de loterie, mais personnellement, je suis plus sur un fin de premier tour, début de second tour. Après, on sait qu'on a une draft qui perd un peu d'épaisseur avec les retours en NCAA, avec la nouvelle règle de la NIL et les joueurs qui sont payés. Et du coup, on a de moins en moins de joueurs dans cette draft, de moins en moins de pivots. Notamment, on peut penser à Yaxel Edenborg qui retourne du côté de Michigan. Et donc, ça pourrait lui ouvrir des portes pour essayer de se frayer un chemin dans un premier tour.
Félix, d'accord avec ça ?
D'accord avec ça, moi je le mettrais aux alentours de la 20e place. Il est compliqué à projeter et à pronostiquer parce qu'en fait, on peut le dire, c'est le mec qui a eu la plus grande ascension chez les prospects français. C'est un mec, je pense, tu regardes les mock drafts de début de saison, il était absolument pas là. Et là, il est arrivé au premier tour, encore une fois, avec sa trajectoire qui est complètement dingue. Évidemment, ça excite les scouts. Donc moi, pour le coup, 20e, je trouve ça, je le vois pas mal ici et on peut avoir une grosse surprise si. Jamais tu as une franchise là sur les workouts, sur les rencontres avec lui, ont complètement craqué sur son profil. On n'est pas à l'abri d'avoir, allez, peut-être gratter ouais, la loterie, un top 15, tu vois, je serais pas étonné.
Est-ce qu'au-delà de son parcours, il y a autre chose qui explique cette hype? Est-ce que le fait que ce soit un excellent dunker, un mec qui peut aussi assurer le show, qui renflue tout ce qui est highlight, etc., ça compte aussi aux yeux des scouts, Thomas?
Je ne pense pas que ça compte vraiment aux yeux des scouts, sauf si on essaie de remplir le compte en banque des franchises avec les vues sur les réseaux sociaux, mais je pense surtout qu'il a un vrai profil athlétique NBA, poste 5, rim runner, comme on l'a dit, il a vraiment les bases du jeu du pivot NBA, maintenant à lui d'ajouter un peu plus de cordes à son arc pour durer dans la grande ligue.
Comment on explique cette hype, Félix?
Bon, on l'a dit déjà, il y a la trajectoire, il y a le potentiel qui paraît juste là illimité pour l'instant. Et surtout, ce qui peut beaucoup plaire aux franchises, c'est qu'en fait, tu sais à quoi t'attendre avec lui. Il remplit un rôle bien précis directement si tu le prends. Tu l'as dit, Thomas, sur le côté, tu sais, tu as un pivot défensif que tu peux mettre, peut-être pas tout de suite dans le 5 majeur, mais tu peux avoir un backup pivot qui va prendre 15 minutes dans une franchise qui ne joue pas grand-chose et qui va te faire le taf en défense, au rebond, qui va courir, qui va pouvoir jouer sur pick and roll. Et donc,
qui a un potentiel quasiment infini, ouais, en fait, à l'heure à laquelle on
parle. Il y a
le
potentiel infini et il y a le côté de tu sais à quoi t'attendre. Il a un profil très clair. Il y a des fois, il y a des mecs où c'est très... on ne sait pas, c'est très flou sur ce qu'il va pouvoir vraiment apporter. Lui, au moins, tu sais, et ça peut rassurer certaines franchises qui ont des besoins précis au poste 5.
À la date à laquelle on enregistre ce podcast, ESPN le place 13e chez les Hawks. C'est quand même pas mal. Juste vous dire des joueurs qu'on a déjà évoqués dans ces podcasts, que sont Nolan Traoré, Maxime Reynaud et Noah Penda. On a l'impression quand même que la cote baisse pas mal, notamment pour Nolan Traoré qui était attendu très haut et qui, au fil du temps et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette draft, est en train de retomber dans les différents mock drafts. On est d'accord?
Ouais, et pour Béringer, on a un joueur qui joue encore. C'est souvent la qualité des joueurs internationaux. On va notamment parler des Indiens après. C'est vraiment une grande force pour eux. Quand les joueurs NCAA ont déjà fini leur saison mi-avril, fin mars, on a un joueur qui continue de gagner des points au fur et à mesure des matchs, dans des matchs vraiment compétitifs en play-off dans leur championnat. Donc c'est vraiment une bonne chose de finir fort la saison pour marquer les esprits et continuer de monter dans les mocks.
Comme toujours, on va évidemment conclure cet épisode en sortant notre boule de cristal. Où est-ce qu'il devrait atterrir? Dans quelle franchise faut-il que Johan Béringer soit la saison prochaine pour s'épanouir, pour profiter pleinement de ses capacités et en même temps progresser et mettre en œuvre tout ce potentiel-là? Dans quelle franchise Johan Béringer doit-il atterrir, Félix?
Moi, je le vois bien, pour être accord avec la 20e place que j'imaginais tout à l'heure, à Brooklyn, qui a un pic en 19e place. Brooklyn, ça peut paraître un choix un peu facile, parce qu'en fait, enfin, moi en tout cas, j'aime bien imaginer des prospects là-bas, parce que c'est une franchise qui est en totale reconstruction, où le roster n'a pas beaucoup de sens.
C'est vrai, je crois que tu avais déjà dit Brooklyn pour...
Ouais, mais je vais pas dire Brooklyn à chaque fois, mais pour le coup, là, je trouve qu'avec Béringer, ça marche parfaitement bien, parce qu'en fait, c'est tellement une franchise en reconstruction que tu as du temps pour continuer ta progression, ce qui est hyper important pour le profil de Béringer, qui va pouvoir vraiment continuer sur sa folle trajectoire, tout en ayant de la place et une possibilité de se faire une place dans le roster. Tu vois. C'est ce qu'il a fait cette année avec Ljubljana, où il était censé être dans l'équipe B et qu'il a tapé dans l'œil de Mitrovic. Là, il y a tellement de place à Brooklyn qu'en fait, moi, j'aimerais bien lui imaginer un destin comme ça. Tu arrives un peu sur la pointe des pieds, tu te fais une place dans un roster qui est cataclysmique et tu vas chercher tes minutes et tu montres que tu as ta place en NBA.
Thomas ?
Ouais, je pense que le plus important, c'est une franchise qu'il aime vraiment beaucoup. Je pense que il ne faut pas trop penser au fit. C'est vraiment un joueur long terme qui doit continuer de se développer. Donc, je pense que, notamment dans un rôle qui est vraiment très défini, dont toutes les équipes ont vraiment besoin, il n'y a pas vraiment l'obligation de trouver une franchise avec laquelle il fit bien. Vraiment une franchise qu'il aime, peut-être faire ses gammes en G-League, comme l'a dit Félix, arriver sur la pointe des pieds, essayer de faire mentir encore les gens et trouver sa place le plus rapidement possible pour essayer de briller le plus tôt en NBA, essayer de gratter quelques minutes.
Tu dirais quelle franchise du coup?
On parlait d'Atlanta, pourquoi pas? Atlanta a le pic 13, a également un pic 20 ou 21, Donc potentiellement, c'est que Capella va peut-être partir, donc essayer de gratter quelques minutes en backup de Kongou ou d'un nouveau pivot qui pourra acquérir, ça pourrait être intéressant pour lui.
Excellent. Merci messieurs pour ce nouvel épisode de Basket Time consacré à Johan Berenguer, d'une première licence pro à la NBA en moins de 4 ans. J'ai retenu, Félix. Réponse le 25 juin prochain pour lui. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur ce nouvel épisode. Évidemment, allez écouter les autres épisodes de Basket Time, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Je vous mettrai évidemment les informations du média Envergure dans la description. Allez checker leur travail et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode spécial Draft NBA.
RMC Basket Time.